Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
On a attendu une fois la gifle, on ne va pas attendre la deuxième.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Thibault Leplat. Et là, on va conclure sur le PSG avant notre sujet suivant avec Jugurta au 32-16. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Ça va, Jugurta?
Jugurta.
Ça va et vous?
Ça va.
Premier poème de Rimbaud, Jugurta, qui était un héros mythologique, c'est ça? C'est ton vrai prénom ou c'est un pseudo?
Exactement. Non, c'est mon prénom.
Jugurta. Ouais.
Incroyable.
Premier poème
de
Rimbaud, il a écrit en latin sur sa table d'écolier. Jugurta. Premier, il avait 13 ans.
Ah bon? On dégrade le matériel comme ça en classe.
Ouais, quand t'es Rimbaud. Ouais.
À l'époque, on savait pas.
Tu peux te permettre.
Tu peux pas ramener tes cartures.
Ouais.
Bon, alors, tu nous as écouté là, et t'as envie de nous parler des propriétaires du PSG.
Ouais, parce que j'ai entendu dire qu'effectivement, il allait y avoir des nouveaux actionnaires. Que potentiellement.
Minoritaires, on rappelle.
Certes, minoritaires, mais il y aura plus 100%, sera plus 100% Qatari. Moi, j'ai envie de dire que ça changera rien. Parce que pour moi, le Qatar, une fois qu'ils sont là, ils sont là. On l'a bien vu. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Même s'ils font n'importe quoi. Parce qu'on va pas se mentir. C'est devenu n'importe quoi. C'est bien. Hein, on a 11 titres. Voilà. Super. Génial. Ça, on va pas cracher dessus. Mais c'est n'importe quoi. On en est à un point où il y a des joueurs qui vont disparaître. Vous parliez des jeunes. Zaïre Emery et autres. On les verra pas. On les verra pas parce que Zaïre Emery va, dans pas longtemps, on va entendre qu'il y a 40 millions sur lui de Wolverhampton ou de je ne sais quelle autre équipe, et il va disparaître, comme plein d'autres. Donc, ils s'en foutent de ça. Ils ont créé une marque, et cette marque,
Ça veut dire que, si je comprends bien, toi, t'attends que les Qataris vendent?
Oui, mais alors, Jugurta, le problème de la marque, évidemment, je suis d'accord, ce qu'ils ont créé en termes de business, c'est assez impressionnant. Sauf que pour l'entretenir, la marque, à un moment, il faut pas non plus que pendant trop longtemps, tu te prennes des claques au niveau européen, ou pire que les claques, que tu sortes de la compète à chaque fois comme ça, être aussi piteux aux yeux de tout le monde. La marque, elle en prend un coup. Et surtout, n'oublie pas quelque chose. La marque, elle fonctionne beaucoup, notamment à l'étranger, parce que t'as des stars. On a déjà raconté le business que pouvait générer Messi dans un club en termes de visite et de tourisme, tout simplement. L'année prochaine, a priori, ils essayent de se séparer de Neymar et Messi va partir. En termes de business pour la marque, il va falloir miser sur autre chose. Et là, peut-être que le départ de ces deux joueurs-là, je l'espère, sera le signe d'une reprise en main du sportif et de l'idée que c'est très bien d'avoir une belle marque. On l'a créée, elle est là, elle existe. Mais maintenant, il faut arrêter d'être ridicule sur le terrain. Il faut qu'on ressemble un peu plus à un club de foot. Parce que la réussite en termes de business, il y a aucun problème. Le PSG est top 5 en termes de business, peut-être même top 3.
Il a été valorisé, là, pour la vente de parts minoritaires, il a été valorisé à 4 milliards d'euros.
Non. Excuse-moi de te corriger. Valorisé par les Qataris.
Oui.
4 milliards.
C'est eux qui disent ça, c'est pas.
Écoute, toi, tu vends ton appart. Tu vas forcément le valoriser.
Moi, je valorise ma bagnole. Appartement
Manchester United vaut 6 milliards.
Elle vaut pas ça, hein.
Appartement Manchester United vaut 6 milliards. T'as quand même une idée de ce que peut valoir le Paris Saint-Germain.
C'est
de vendre des parts. C'est l'acheteur qui le met, hein.
On va aller dans le sens de Daniel. L'intérêt des Qataris, c'est de vendre des parts maintenant, avant précisément le départ de Messi et Neymar, qui pourraient effectivement entamer un peu, en tout cas, la valeur symbolique et financière du club. Donc ça, il a là-dessus, t'as raison. Mais je crois quand même que quand t'as d'autres modèles en face, type comme City, pour pas les citer, tu te rends compte que tu peux faire une valorisation économique financière aussi sur la compétition, sur le prize money sur ce que tu arrives à acquérir à travers les compétitions, à travers le sportif. Et l'image de manière générale d'un groupe.
C'est la valorisation d'un club, que le premier actif, c'est les joueurs. Donc si de la valorisation du club, si déjà t'enlèves quelques stars là tout de suite, boum, tu vois, c'est plus la même histoire. Bon.
Ouais, mais il y a pas que ça.
C'est pas que les joueurs,
il y a quand même le modèle,
c'est principalement les joueurs.
Mais c'est en train de changer. Le foot business, il est en train de changer aussi là-dessus. Tu le vois dans les modèles multiclubs, c'est plus simplement juste les joueurs qui valorisent la marque. C'est aussi la Galaxie, Red Bull par exemple. La Galaxie Red Bull, c'est pas des joueurs. Qui valorise ces clubs. C'est un système, c'est une manière de penser.
Oui, c'est différent. Il y a un savoir-faire qu'ils ont. Voilà.
C'est oui, pas, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on a une période charnière là. C'est que Paris est en train d'essayer de changer de modèle. Est-ce que Paris est capable de le faire? Ça reste à voir. Mais en tout cas, je pense que l'orientation elle est plus dans cette direction.
Jugurta, t'as tout dit.
Bah, en fait, je voulais juste préciser que effectivement, le PSG peut vendre Neymar et Messi parce que là, Daniel parlait justement du tourisme et autres. Moi, samedi, je me suis allé au Parc des Princes. J'étais le seul à parler français, limite. C'est vrai que c'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant.
Oui. Oui.
J'étais avec un pote à moi. On s'est dit, ah ouais, quand même, il y a quand même pas mal de supporters. Et au passage, je remercie Julien Cazard et Jérôme Rotten puisque c'est grâce à eux que j'y suis allé. Franchement, j'ai été impressionné. Je me suis dit, j'ai jamais vu le parc comme ça. Moi, faut savoir que j'avais jamais été au Parc des Princes. Enfin, j'y suis plus allé depuis qu'il y a les Qataris. Donc, ça a bien changé, effectivement. C'est beau, mais ça n'a rien à voir. Et pour autant, je pense que même s'ils vendent Messi et Neymar, ils ont quand même Mbappé. Et faut pas oublier qu'ils sont capables d'acheter, même un Haaland. Alors, je sais pas comment ou combien ou autre, mais ils sont capables d'acheter, en fait, des futurs stars, voire des mecs de 30, 32 ans, hein, qui sont des stars, et j'espère plus des retraités. Pour ramener encore ce business, en fait, ce coût de l'argent, ça, on l'oublie aussi. C'est bien beau de nous dire, il y aura plus les bling-bling, mais à un moment donné, quand ils auront pas le choix, s'ils veulent mettre 400 millions sur un joueur, on sait qu'ils le font.
Mais attention, aujourd'hui, des gars bling-bling, je veux bien que tu m'en cites quelques-uns, il y en a pas des masses, hein. Des gars qui, comme Ronaldo et Messi, qui clairement pouvait générer énormément de business autour d'eux. La Juve s'est jetée sur Ronaldo pour cette raison-là. Le retour de Manchester, de Ronaldo à Manchester, c'était également pour ça. Messi, le PSG s'est jeté dessus dès que le Barça pouvait plus le payer pour cette raison-là. Mais là, aujourd'hui, des stars de ce genre-là où tu te dis, tu viens, ça remplit les stades, ça fait venir les touristes et tout. Si tu peux m'en citer trois, je veux bien, mais je vois pas, moi.
Haaland, ce serait dommage que sa carrière s'arrête aussitôt, quand même.
Haaland, honnêtement, pour moi, c'est pas, Mbappé, au niveau business international, il est pas du tout comme Messi ou comme, ou comme Ronaldo.
Non, mais c'est un prospect pour parler au niveau international.
Ouais, mais on est loin de ça encore, hein. Et Haaland, il est pas du tout, star de ce genre-là, qui fait vendre des maillots dans le monde entier, en Asie ou je ne sais où, comme Messi et Ronaldo l'ont fait. Il y en a pas énormément, là, des grosses stars dans le foot, je trouve, là.
Jugurta, merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Et à très
bientôt.
Bonne soirée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu inverser notre ordre de sujet là pour pouvoir prendre le temps d'aborder l'affaire de racisme en Espagne dans quelques instants. Je voulais vous parler également ce soir des suites de l'affaire Galtier-Fournier. Pas trop d'actu là-dessus ces derniers jours, mais aujourd'hui, on apprend que Julien Fournier a été entendu aujourd'hui même par les policiers dans le cadre de l'affaire donc Galtier-Fournier. Je rappelle que l'entraîneur du PSG est accusé d'avoir tenu des propos racistes lorsqu'il était sur le banc de Nice. Il y a une enquête préliminaire ouverte. Galtier est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires, racistes et islamophobes. Fournier entendu aujourd'hui. On sait que les joueurs de Nice, pour beaucoup, ont été entendus également, que le coach de Nice a été entendu, mais Christophe Galtier, pour l'instant, n'a pas été entendu par les policiers. Donc peut-être qu'il se le réserve pour la fin de la procédure.
C'est souvent comme ça. D'abord, tu recueilles tous les témoignages.
Et qu'a priori, ça devrait être bouclé pour avant les vacances.
D'accord. Donc d'ici fin juin, on saura s'il y a une suite, une mise en examen.
Et qu'a priori, du côté de Nice, ceux qui ont été entendus par la police, ça a été assez costaud quand même.
Donc ça confirmerait
la teneur du mail. Oui.
Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Après, pour l'instant, c'est beaucoup de rumeurs, donc c'est difficile de se prononcer. C'est une enquête en cours et des faits présumés. Effectivement.
Donc, présomption d'innocence pour Galtier, bien sûr.
Là, on est sur la partie plus à charge, donc forcément, c'est plus difficile pour Galtier. Mais il y a aussi une enquête à décharge, pas oublier. Donc il faut la prendre en compte toute la procédure. Donc pour l'instant, en tout cas, ça ne facilite pas les choses à Nice. On en parlera peut-être demain. Ça ne facilite pas l'état d'esprit. Ça ne facilite pas la gestion du club.
Également à remettre en question en regard de cette affaire qui a été très mal gérée également en interne.
Évidemment.
Et puis pour être complet sur le PSG, Vous avez vu cette info du soir que vous retrouvez sur rmcsport.fr. Le PSG discute avec Manchester United concernant Neymar.
Ça serait une très très bonne nouvelle pour le PSG.
Et qu'est-ce que ça nous dit sur le rachat de Manu?
C'est-à-dire connexion Qatari?
Ils ont renchéri cette semaine.
Tout à fait.
Proposer 6 milliards d'euros. Est-ce que tout ça est ensemble? Est-ce que ça fait partie du...
Ah oui, ce serait fort ça, que le Qatar achète Manchester United et ils envoient Neymar là-bas.
Eh oui.
Ouais. C'est un club satellite, quoi.
La même semaine. Hein.
Club satellite du PSG.
Ce serait fantastique, alors. Alors là, celle-là, je pense qu'on serait...
Attention, parce que c'est pas Qatar,
ça, ce serait fou, ça.
Non, officiellement, c'est...
L'autorité d'investissement du Qatar.
Qatar, c'est pas très grand, hein, donc,
c'est un membre de la famille. Voilà,
c'est des gens qui, au minimum, se voient au déjeuner, quoi, quand même.
Oui, qui se connaissent. Voilà.
Oui, je pense.
Voilà, ils vont à la cantine, tu vois.
Ils ont les numéros de téléphone des uns des autres, quand même.
Voilà. Exactement. Voilà pour l'actu PSG. Dans un instant, l'affaire de racisme en Espagne vue par l'After. On se retrouve tout de suite avec vous au 32-16.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Gilbert Brisbois.
23h12, l'After est là jusqu'à minuit. On revient à la Liga tout à l'heure avec Daniel Riolo, avec Thibaut Leplat. Mais là, il faut qu'on parle nous aussi de ce qui s'est passé en Espagne ce week-end avec une nouvelle fois des insultes racistes très claires envers Vinicius, le joueur du Real. Alors vous avez le factuel, vous savez tout ce qui s'est dit, vous connaissez le contexte, les drôles de l'âme en ont parlé tout à l'heure. Ces dernières semaines, entre la fameuse opération de lutte contre l'homophobie qui n'a pas été respectée par tous les joueurs, ça a donné des polémiques, la gestion du Ramadan au préalable, ça a donné des polémiques, les propos supposés de Galtier, on a l'impression qu'il y a des faits sociétaux comme ça qui rattrapent le football. Évidemment, le foot n'est pas imperméable à ce qui se passe dans la société, et on constate quoi? Que souvent, les clubs ou bien les ligues ont bien du mal à gérer tout ce qui se passe, à gérer de façon fluide et efficace ce qui se passe. Donc je voulais quand même qu'on en parle ce soir, Thibaut et Daniel. On se retrouve là avec une situation Vinicius, on le traite de singe, finalement c'est lui qui finit avec un carton rouge. Aujourd'hui en Espagne, il y en a qui essaient de minimiser
on a eu la même chose avec Lukaku
c'est dingue.
En Italie, qui lui aussi a été suspendu. On n'est pas revenu sur son carton. C'est arrivé d'ailleurs à de nombreuses reprises en Italie, ce cas de figure. Et effectivement,
depuis l'époque Eto'o qui dénonçait ça et qui était bien seul à l'époque, c'est pas nouveau.
Fort heureusement, ça arrive moins souvent. Il y a moins, mais là où t'as raison, c'est que il n'y a pas de solution on n'arrive pas à trouver de solution si ce n'est si jamais on chope la bonne personne, le bannir, comme ça a pu être fait en Angleterre à l'époque de Chelsea.
Tout fait Valence là, proposer Valence.
Voilà. Donc bannir, les Espagnols sont en train d'identifier, mais on se rend compte que là, en l'occurrence en plus, c'était tout le stade à Valence autour de Vinicius, qui est devenu une sorte de tête de turc de tout le monde là en Espagne, qui semble canaliser un peu toutes les haines, tous les instincts primitifs des plus débiles des supporters, qui veulent lui faire payer je ne sais pas trop quoi d'ailleurs. Au départ, c'était le gars provoque, donc on va faire ça pour le faire dégoupiller. Mais là, on tombe dans un délire collectif assez surprenant, comme personnellement, j'en avais pas vu, moi, dans le foot, parce que c'est une personne et dans tous les stades où il va en Espagne. Et là où tu as raison de souligner, les réactions ne sont parfois pas à la hauteur. Comme s'ils étaient désemparés, à l'image de Tebas, dont on comprend pas la réaction. On sait pas, on comprend pas ce qu'il fait, Tebas là-dessus. C'est quoi finalement son explication? C'est ouais, mais c'est axé uniquement sur Vinicius, c'est parce qu'il lui envole à lui et tout. Mais OK, on peut entendre ça, mais ça peut c'est pas une excuse, c'est pas une explication.
Il mélange le moral et le légal.
Et voilà. Donc la seule solution encore une fois pour l'instant, c'est identification exclusion. Mais en attendant, ça se reproduit. Donc, est-ce que même ça, c'est assez fort aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire le jour où tu vas avoir l'équipe qui va sortir? Si moi, on me dit la première fois où l'équipe va faire ça, ça ne se reproduira plus. Bah, évidemment qu'il le fasse, mais dans ces cas-là, il ne va pas falloir que ce soit que le Real qui sorte. Il faudra que Valence sorte aussi. Parce que pourquoi Valence ne sortirait pas? Après tout, ils sont également contre le racisme, Valence. Il peut y avoir des joueurs noirs aussi dans leur équipe.
Qui est pour le racisme, en fait?
Exactement. Donc, ça n'a aucun sens. Et puis, tu peux également, parce que j'en ai vu qu'ils l'ont fait. Parce que, il faut voir quand même que ce genre d'événement provoque des stupidités sans nom dans, alors, ça vaut ce que ça vaut, les réseaux sociaux, mais néanmoins, c'est l'expression de ce qui peut être dit dans la population. Mais d'abord, on est face à une hiérarchisation de tous les, de toutes les causes, de tous les combats. Vous parlez plus de, du maillot de lutte contre l'homophobie que de Vinicius. Et t'as pas dit ça, et t'as pas réagi au bon moment. J'ai même vu des débiles s'en prendre à Benzema parce que Benzema a pas, lui en tant que capitaine, réagi limite et pas monté dans la tribune pour aller mettre un coup de boule au gars. Yeah. Tu vois. Donc tout le monde est un peu désemparé face à cette bêtise totale. Qui existe, bah on le voit. Alors, on a cru que c'était circonscrit à l'Italie. On voit qu'en Espagne, ça repart bien. En Angleterre, où tout était contrôlé dans les tribunes, bah c'est là qu'on a banni le mec à vie là qui avait balancé des bananes sur Sterling. Ça fait même pas deux ans. Hein. Je crois que c'était il y a moins de deux ans l'année dernière. Bon, bah.
Moi, je crois qu'il y a vraiment deux choses qui me frappent dans cette affaire. C'est d'abord un phénomène un peu bizarre avec d'un côté des clubs de foot qui essaient absolument de se premiumiser, qui essaient de se séparer finalement de la société le plus possible, monter en gamme,
le prix des places, devenir
tu sais un peu comme plus tu deviens riche plus tu te sépares un peu de la société dans laquelle tu vis. Alors tu vas dans des vols spéciaux, tu vas essayer de te séparer un peu des autres. Devenir riche et se séparer de plus en plus. Et tu vois ces clubs montent en gamme, ils se séparent de plus en plus de la société.
C'est un paradoxe puisque t'as besoin de la base pour vivre en fait.
Anglais ont fait quand ils ont voulu couper avec les hooligans, c'est ce qu'ils ont fait. C'est on va changer la sociologie du public, on va mettre des gens CSP, CSP+ et tout, comme ça on n'aura plus d'emmerdes, on
n'aura
plus de violence.
Sauf que la société te rattrape.
Il faut quand même dire qu'ils ont enlevé une tonne de problèmes qu'ils avaient dans les stades en faisant ça, mais finalement le temps.
Et ça c'est le deuxième truc.
Mais finalement le temps les aura rattrapés puisqu'on a eu de nouveau des incidents comme
le deuxième phénomène que cette séparation de la société génère et qu'effectivement tu arrives à éradiquer un certain nombre, notamment la violence extrême, la violence physique extrême, c'est quelque chose qu'il faut s'en féliciter d'arriver à la juguler, la faire disparaître des stades. Le phénomène paradoxal que ça suscite, c'est ça suscite en réalité ce qu'on dit sur Vinicius là, c'est inacceptable ce qui se passe à Valence. C'est absolument indéfendable. Personne ne peut défendre ce qui s'est passé. Tebas est à côté de la plaque.
Personne le fait de toute façon.
Sauf que ce qu'on constate, c'est qu'on se réjouit. On peut se réjouir maintenant que ça nous indigne autant, parce que combien de fois dans les stades on a entendu. Moi en Espagne, je l'ai entendu. Hein, des cris de singes. Combien de joueurs se sont plaints de ça.
Positif,
et qu'en réalité, on devient beaucoup plus sensible à ça. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité.
À l'époque des
c'est très difficile à admettre parce que quand tu le regardes, c'est insupportable. Sauf que avant, tu le voyais même pas.
À l'époque des taux, t'avais l'impression que t'avais un homme au milieu du terrain qui était seul. Ouais.
Voilà. Et Camini, quand
t'avais l'impression que l'homme était seul, un peu abandonné, et
même
qu'on lui disait.
T'inquiète, c'est pas grave, ça va passer.
Et qu'on lui disait, qu'on lui mettait la main sur l'épaule en lui disant. Ça va, mec. Oublie et demain.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les normes sociales évoluent sans cesse. C'est le fameux, on peut plus rien dire. Non, on peut plus dire ça. Évidemment qu'on peut plus dire ça. Heureusement qu'on peut plus dire ça. Simplement, le racisme, c'est en réalité, il faudrait lire. C'est l'histoire d'un édito qu'il y a dans Philomag d'Alexandre Lacroix, que je salue, qui est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, qui un jour écrit le texte. Certainement la chose la plus intelligente que j'ai lue sur le racisme. Il explique que lui, il adorait. Quand il allait à la boulangerie manger ces espèces de meringues au chocolat qu'on appelait à l'époque
les têtes de nègre.
Il dit moi j'adorais ça. Donc j'allais à la pâtisserie et je demandais tête de nègre, ça posait problème à personne, je prenais une tête de nègre. Et un jour, je me suis rendu compte que le nom avait changé, on appelait ça une meringue au chocolat. Et je me suis dit bah c'est bizarre, moi j'ai toujours appelé ça une tête de nègre, je vois pas le problème. Donc je demande une tête de nègre et là, dans le 10 ans, je me rends compte qu'il y a des gens grimacent autour de moi et je me dis ah effectivement, on peut plus dire ça. Non, on peut plus dire ça. Je peux plus dire. Il dit le racisme, c'est pas. Alors c'est une manière de dire tête de nègre, mais sans le savoir en réalité, parce que pour toi ça n'a pas de sens. C'est le fait de continuer à le dire quand tu sais que ça choque. C'est ça le racisme. Et le racisme, et le racisme là, il choque parce que non pas parce que la société est plus raciste, plus violente. Peut-être elle l'est, peut-être pas. Je sais pas. J'ai pas de données objectives là-dessus. Je crois pas qu'elle soit plus violente.
Je pense qu'elle l'est moins.
Mais là, ce qui choque, c'est que on puisse continuer à dire ça alors qu'on a toutes ces campagnes, alors qu'on est sensibilisé. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité qu'on se révolte, qu'on trouve ça révoltant et que ce soit un sujet et que ce soit posé sur la table. Le pauvre Vinicius, il prend pour
là,
les autres.
Là, c'était pas tenable.
Et Tebas, on voit que Tebas est à côté de la plaque là-dessus. Parce que lui, il répond sur le légal. Il dit oui, on vous a déjà convoqué. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème moral. C'est comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là? Est-ce que c'est acceptable? Oui, non. Si ce n'est pas acceptable, dans ce cas-là, tout le monde doit pouvoir se révolter et interrompre le match. Chose qui n'existait pas du temps de Eto'o, du temps de Cavani. Mais je parle d'Amunike aussi dans les années 90 au Barça. Il y a eu des choses à abominer. Et moi, j'en ai vu. Et parce que ça faisait partie aussi. Mais on a parlé des chants homophobes dans le même genre, qui sont aussi insupportables maintenant. Et il y a encore 10 ans, on le criait.
maintenant, c'est devenu inacceptable parce qu'on est sensibilisé et le racisme, l'homophobie et tous ces problèmes de discrimination, c'est aussi cette manière de vouloir continuer à dire tête de nègre juste parce que tu as toujours dit ça alors que c'est devenu inacceptable. C'est ça le racisme.
David, au 32-16, est là. Salut David.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vraiment super. Ça me fait plaisir de passer sur l'antenne.
Bah, tu es bienvenue.
Et en fait, écoutez, j'ai écouté les propos de Daniel Rio tout à l'heure. Donc, je voulais dire juste la chose suivante par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire dans le foot par rapport au racisme. Je trouve qu'en fait, les instances du football sont quand même vachement hypocrites pour la simple et bonne raison que quand on lance un fumigène où on fait des dégâts ou des problèmes dans un stade, on va suspendre, par exemple, les supporters adverses qui ne vont pas pouvoir se déplacer à Paris ou les Parisiens qui ne vont pas pouvoir aller à Marseille. Cependant, quand tout un stade, comme apparemment hier ça s'est passé par rapport à Vinicius, bah pourquoi en fait on peut pas suspendre le stade? Pourquoi en fait on peut pas faire comme pendant le Covid, par exemple? C'est-à-dire que vous voulez faire des chants racistes, dans ces cas-là, on va mettre une suspension.
Mais justement, sur le stade. Justement, quand on fait les huis clos suite à des problèmes dans les stades, on en est arrivé à dire que c'était pas une bonne idée parce que tu sanctionnais tout le monde et que la meilleure des solutions c'est l'identification et la sanction et le bannissement éventuel de la personne. Parce que le huis clos où tu assistes à un match dans un stade vide, moi je trouve que c'est déplorable, c'est pas une solution.
Alors, ça déresponsabilise.
Et ça déresponsabilise tout le monde en plus, tu vois, tu dis juste.
Dans ces cas-là, ce qu'on pourrait proposer qui pourrait être super marrant, en fait, on n'a qu'à faire du sport qu'avec des Caucasiens. Le NBA, on met plus de personnes de couleur. Le foot, on enlève Mbappé. Comme ça, en fait, peut-être qu'ils vont quand même se rendre compte de la connerie globalement. Parce que comme
tu vois bien que quand je disais que c'était difficile d'avoir des solutions, toi, là, t'es parti dans un délire qui est pas une solution, qui est un délire complètement
absurde. Non,
là, on est dans l'absurde. Donc tu vois bien que c'est pas si évident et que tout ce qui est dit, à savoir l'équipe sort, mais alors faut que l'autre sorte aussi, et il est assez difficile déjà.
T'interromps le match, première sommation, si ça continue, match gagné, voilà. Mais c'est le règlement de la FIFA, hein. C'est ce qu'a rappelé Infantino aujourd'hui.
Ouais, match gagné hier pour le Real contre Valence.
Non, match gagné pour le Real. Après une première sommation, si à nouveau des et là l'intérêt c'est que ça responsabilise tout le monde.
Tu punis les joueurs et tous les supporters qui ont pas fait les cons parce que t'as un 10% ou un 15% en l'occurrence il y en avait beaucoup qui ont fait les cons. Je sais pas si c'est une bonne solution.
Le huis clos, c'est
déplorable. C'est pareil. Honnêtement, quand ça va tomber sur une équipe où les pauvres supporters vont dire mais attends, nous notre équipe elle a perdu, les joueurs sur le terrain, nous on a perdu. Parce que t'as une bande d'abrutis qui ont décidé d'insulter et d'être racistes envers un autre. Je sais pas si c'est une bonne solution, Thibaut. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma solution, c'est tous les stades où il y a, et toutes les ligues majeures ont du blé, elles sont toutes sous caméra.
Tu le sais. D'où l'intérêt de la première sommation. Tu peux identifier tout de suite les personnes qui sont en cause.
Les mecs sommation, de toute façon, ils doivent savoir quand ils sont dans un stade qu'ils sont filmés. Donc si les mecs sont en plus assez cons pour continuer à leur
confiner, ils sont cons, hein, ça.
Sors-les pour toujours et qu'on n'en parle plus. Ce qui est le plus emmerdant, c'est le discours des officiels. C'est le discours en Italie quand on n'a pas retiré, qu'on n'en a pas retiré le carton à Lukaku. Ça, c'est complètement con. Ça, Ligue Fédé, c'est complètement con. Là, la réaction de Tebas, elle est débile, la réaction de Tebas. C'est bête ce qu'il dit. Il doit plutôt que de chercher à survendre en permanence sa Liga, tout est formidable dans ma Liga, je mets tout sous le tapis parce qu'il faut vendre mon produit, Non. Tebas, tu vois la réalité en face. La première réaction que tu dois avoir, c'est il y a eu des abrutis dans le stade à Valence, on va les sanctionner, ne vous inquiétez pas, les caméras ont fonctionné, les mots qui sont sortis de la bouche des gars, on est capable de les voir. Ils ne remettront plus jamais les pieds dans un stade. En fait, à la fois je dis il y a pas vraiment de solution et à la fois je me dis que c'est pas si compliqué de les choper les gars.
La solution, pour moi le problème c'était un peu le sens de ce qu'on voulait aborder là ce soir, c'est de dire que
on a dépensé beaucoup d'énergie et beaucoup de d'argent aussi à vouloir absolument se premiumiser, mais on n'a pas dépensé autant d'énergie, autant d'argent à vouloir penser ce qu'est le football actuellement et à vouloir penser ce qu'est le football dans cette société-là. Et ce qui fait que sur des situations comme ça, tout le monde se retrouve complètement une sorte de panique où on a peur absolument de dévaloriser son produit parce qu'on n'a pas passé de temps juste à réfléchir à ce qu'on était en train de faire et que la question des problèmes sociétaux, il y a qu'à ouvrir un journal pour comprendre l'état de la société.
Dans les stades des choses que tu vois dans la société.
Il n'y a rien de nouveau là. Ça te met dans une situation de panique comme ça, alors que c'est des problèmes qui sont récurrents, permanents, qui font la une de tous les journaux toute l'année. Je pense qu'il y a un problème de recul et de manière qu'a le football de se lancer
dans la sanction. Pour le coup, dans la sanction, le foot irait beaucoup plus loin que la société. Parce que dans la société, d'abord il faut qu'il y ait le procès. Mm-hmm. Pourquoi t'as fait
le
ça? Et puis il va pas prendre perpétuité, tu vois. Il prendra rien. Il y aura là, le foot réagirait de façon très forte. C'est, on a vu les images. Tu as fait des bruits de singe ou je sais pas de quelle façon tu as manifesté ton racisme. C'est bon, l'image
mais
est
ça,
là.
Ça, le problème, c'est
qu'il y a pas de procès. Tu ne remets plus les pieds dans un
ces
stade.
Ces sujets-là sont considérés.
C'est un truc assez fort, hein.
Ces sujets-là sont considérés comme des problèmes marginaux, en quelque sorte, qu'il faut régler un peu, essayer de pas
en faire.
Alors que c'est central.
Alors
c'est un problème central. Ce sont des problèmes qui sont présents. La question du racisme ne sera jamais réglée dans la nature humaine. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Maintenant, une fois que t'as dit ça, t'as rien dit. C'est pas parce que ça existera toujours que ça doit exister encore dans les stades. Et que ton rôle de civilisation, ton rôle de club, ton rôle d'enseignant, ton rôle d'éducateur, c'est de faire en sorte que ça arrive le moins possible. Le moins souvent possible et encore moins à des heures de grande écoute. Et que si ça arrive, tu aies une stratégie claire, efficace.
Donc
et stratégique. Et pas uniquement une stratégie pénale. Non, je demande au football de penser ce qu'il est en train de faire, se rappeler de son rôle éducatif et de l'assumer. Et que c'est pas grave d'assumer ça, parce que le racisme, il n'y a personne qui va défendre le racisme. Mais c'est bien une cause où tout le monde est d'accord. C'est bien sur celle-là. Mais c'est pas parce qu'il y a unanimité, ça veut dire qu'ensuite, il y a une simplicité dans la manière de l'appliquer. L'unanimité, c'est une chose. Maintenant, avoir des réponses graduées, être capable de mettre de la rationalité, être capable de comprendre aussi le désarroi. Là, débat, je le répète, est à côté de la plaque parce qu'il répond pas sur le sujet. Le sujet, c'est une émotion collective liée à une hypersensibilité de laquelle il faut se réjouir à l'égard des problèmes du racisme.
Ouais, ça va, il va pas pleurer. C'est bon, ça va.
Il répond règlement. Alors qu'il il représente quelque chose de plus large et il faut accepter qu'on représente quelque chose de plus large.
Ça a été complètement à côté de la plaque sur le dossier, ça c'est clair.
David, merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut David.
Et à très bientôt pour débattre dans l'after. Voilà pour ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir sans doute cette semaine. Dans un instant, la Ligue 1 à nouveau. On va parler de Lens, on va parler de la course à l'Europe, on va parler du maintien dans la demi-heure qui vient. Le 32 est ouvert si vous êtes supporter des clubs concernés par ces sujets. C'est tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Brisbois.
23h31, ils sont là, Daniel Riolo et Thibaut Leplat. On va parler de la course à l'Europe, on va parler du maintien. Mais démarrons notre page sur les restes de la Ligue 1, là, parce qu'on a fait beaucoup de Marseille, beaucoup de Paris dans la première heure, par Lens, qui donc, en ce week-end charnière...
Et la seule équipe qui a réussi sa saison. Tout le reste a fait de la merde.
Le vrai champion de France, j'ai dit ça il y a un mois, j'ai pris une vague à la fois de Marseillais et de Parisiens.
Mm-hmm. Ils ont confirmé la deuxième place ce week-end.
Le concept de vrai champion de France, je comprends pas non plus. Je comprends pas ça. Moi, je peux être
le, le concept du troll sur Twitter, tu comprends.
Ça oui.
Voilà. C'était un petit troll quand même. C'était une manière de troller aussi un peu, de susciter la réaction.
Lens fait une saison où ils avaient tapé 2-16, 2-20 points de moyenne par match. Ils ont un total de points qui est énormissime.
78.
Même l'OM qui est troisième a plus de points que l'année dernière quand ils ont fait 2. Ils ont gagné les gros matchs. Et Lensois ont gagné les gros matchs. C'est
là où ils sont très forts.
Ils ont battu le PSG chez eux, ils ont battu l'OM deux fois.
Ils sont capables de se mobiliser pour un grand match, ils sont capables d'assumer la pression. C'est-à-dire que c'est pour ça que je trouve que c'est une équipe très intéressante si on arrive à la
progression. Ils sont en progression. Je n'aime pas le concept de vrai champion de France. Ils font un deuxième absolument admirable. ils vont découvrir la Ligue des Champions. Il va y avoir 1000 questions à se poser cet été sur comment ils vont gérer ça.
Il peut être un modèle, Daniel. C'est pour ça que c'est un vrai champion de France, au sens il peut être un modèle pour le championnat de France.
Être le modèle sans être
le Paris Saint-Germain est absolument pas un modèle pour les autres clubs.
N'est pas
en,
un
revanche,
effectivement, ils peuvent être un modèle pour beaucoup d'autres clubs en France.
Et sens-là, il est inspirant. Il y a beaucoup de joueurs français.
Absolument.
Il y a des compétences françaises et que, en ce sens-là, je disais vrai champion de France, au sens où il représente, à mon sens, plus le football français.
Tout ce que tu as dit, sans dire qu'ils sont champions de France, les supporters du PSG qui ont morflé toute l'année n'ont pas besoin en plus de prendre cette insulte dans la gueule.
C'est pas une insulte.
Un petit peu.
Ah, c'est une insulte.
Un petit peu.
Reconnaître le mérite de l'adversaire, c'est plutôt une grande ardeur.
Tu ne trouveras personne pour pas reconnaître 100% de mérite à Lens. Il y a une phrase de Franck Hez que j'ai beaucoup aimée, et c'est peut-être la différence que je fais entre Lens et l'OM dans cette année où les deux se sont tirés la bourre jusqu'au bout. Franck Hez a dit un truc dans une interview, ça peut paraître tout con, mais il dit « Moi, je demande à mes joueurs de jouer avec le sourire ». Je pense que Lens, au-delà du fait d'être une équipe assez neutre, ce qui fait que tout le monde les aime, à part les Lillois, c'est un peu comme Monaco quand ils brillent et qu'ils sont très forts, personne n'est contre Monaco.
C'est pour, que la France aime.
Que l'OM, même quand ils pètent le feu, jamais un Lyonnais aimera l'OM, et pas un Parisien non plus, et un Bordelais non plus.
C'est pour ça qu'il est champion de la France, un peu quelque sorte.
Toujours est-il que cette histoire de « je joue avec le sourire », j'aime ce concept. T'as l'impression que cette équipe dégage de la bonne humeur.
De la joie.
Au-delà de ce qu'elle fait sur le terrain, de son pressing, de son dynamisme, de ses joueurs qui sont capables de changer de place, de ce mercato improvisé, je dis ça parce que c'est le mercato d'hiver où Thomasson arrive et immédiatement il devient titulaire et un joueur essentiel de cette équipe que tu as l'impression, et ça n'a pas l'air d'être qu'une impression, c'est une réalité, où le groupe vit bien, comme on dit, où remplaçant, titulaire, tout le monde est concerné, ils vont gagner à Lorient après un début de match pas bon, immédiatement ils vont vers leurs supporters, et il n'y a que du sourire partout. L'OM, qui, je le redis, n'a pas fait une saison que je qualifierais d'échec, et eux aussi sont suivis par beaucoup de supporters quand ils sont en déplacement, ils ont gagné des matchs importants à l'extérieur, il n'y avait pas ce petit truc-là. C'est une équipe qui essaye de marcher sur l'adversaire.
Il manque un sourire à l'OM, c'est ça que tu veux dire?
Qui est protagoniste, qui veut rentrer dans la tronche de l'autre, qui essaye de jouer, même si parfois il leur manque du talent.
Militaire, agressive, c'est pour
exactement.
Ça que, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai des réserves.
Il y a de l'agressivité, il y a beaucoup de choses, mais.
Il n'y a pas de joie.
Il n'y a pas de joie. Le côté champagne, ils ont pas, il manque ce truc-là.
La joie chez Francaise, c'est pas simplement de la com, c'est pas simplement une bonne phrase. C'est une vraie idée. Ça vient de Fouquet aussi. Cette idée que la joie est constructive, et c'est à partir du moment où tu as de la joie, c'est des gens qui ont lu Spinoza, etc. Enfin, c'est une idée profonde qui veut dire que la joie, c'est l'agrandissement de ton être. C'est l'idée que tu vas te perfectionner toujours un peu plus, et que c'est à travers la joie est une force qui te permet de dominer.
Maintenant, la façon de fonctionner en France, enfin. Est-ce que, tu vois, associer joie, travail et performance, c'est pas évident.
Mais ça peut être bien quand on le fait.
Le perfectionnement,
quand
les se pointent,
ça peut être bien quand on le fait.
C'est justement toute la force.
Tu vois, travailles dans
le milieu et tout. Oui,
en fait, tu passes un peu pour un branleur, pour dire les choses.
Non, mais ça, c'est de la gaieté, là, c'est autre chose.
Là, c'était autre chose. C'est je fais la fête avant d'être joueur de foot.
C'est la fête, c'est la gaieté, c'est le divertissement. C'est pas la joie au sens philosophique.
J'atteignis juste un petit peu le propos par rapport à l'OM, où effectivement, je trouve qu'il n'y a pas assez de bonne humeur, de joie dans la performance. C'est que c'est quand même toujours plus facile. Par rapport aux attentes qui sont les tiennes, quand tu es toujours plus difficile à l'OM qu'à Lens.
C'est sûr.
À l'OM, il y a une forme de pression permanente,
bien sûr.
D'attente toujours exagérée, qui fait que parfois justement, tu ne peux pas aller vers ce relâchement qui te rend un peu plus heureux dans la performance. C'est l'impression qu'immédiatement,
il est
replongé dans la douleur, dans les gens qui attendent pour savoir te juger. T'es dans l'échec, t'es pas dans l'échec. Marseille, Lens, s'il finissait troisième, tout le monde aurait dit que c'était une super saison. Même quatrième. Personne n'aurait dit échec. L'OM, troisième, et j'entends échec sur tous les plateaux.
Bien sûr, c'est pas des clubs aux mêmes dimensions.
Mais néanmoins, et c'est la seule réserve, tout en réclamant de l'exigence, et je soutiens Tudor et Longoria sur le cap Payet, néanmoins, Tudor manque de sourire. Son management, je veux pas qu'il...
Moi, j'ai peur que ça casse.
Je veux pas qu'il ramollisse. Je veux juste qu'il ne se transforme pas en Vaïd.
Ah oui, bon exemple.
C'est ça le truc, c'est que je ne veux pas.
C'est vrai que Tudor a jamais fait deux saisons dans un club.
Voilà. Eh ben son exigence, c'est une bonne chose. L'exigence, c'est très bien, qu'il traite tout le monde pareil, qu'il n'a pas envie que les mecs traînent les pieds.
C'est un sergent.
Voilà.
Mais il
faut juste qu'il aille pas jusqu'à la limite ou que ça aille trop loin là-dedans. Il peut être exigent.
Qu'il pourra pas
je pense que Francaise est très exigeant. Il faut juste pas qu'il aille au décrochage et au côté militaire.
Hormis le fait que ce sont pas des clubs de même dimension, donc c'est difficile de les comparer à termes égaux. Mais tu as raison sur le fait que Tudor manque de sourire. Mais je crois pas du tout qu'il faut attendre de Tudor qu'il sourie et qu'il fasse des selfies avec le public pour être plus obéi, pour avoir plus d'autorité, parce qu'il la perdra. Il est comme ça. Tu peux pas dénaturer. Surtout quand t'es coach à ce niveau-là, tu peux pas te dénaturer pour plaire à la galerie. La différence, c'est que Franck Hesse, c'est une philosophie, je peux dire, une philosophie de vie qui est menée depuis longtemps. Ça date pas de maintenant. La joie, alors évidemment, on est beaucoup plus réceptif maintenant quand ça gagne. J'attends de voir le jour où ça gagne plus. Ouais. Là, c'est effectivement là.
Bon, après,
voir
on si ira dire, il a trop relâché.
Moi, j'aime beaucoup, évidemment, mais bon, tout le monde aime la joie. Mais je crois que la joie, il faut pas l'entendre comme une espèce de gaieté ou de diversion aux passagères.
Oui, c'est ça. C'est pas.
C'est une joie
ça comme veut pas
joie
dire que
c'est de pas
sérieux.
C'est la joie de l'effort. C'est voilà. La joie de progresser. C'est la joie de t'améliorer. Et c'est la joie de compétir. C'est la joie de jouer cette compétition. Et ce que je trouve très intéressant dans cette équipe, c'est que c'est la première fois que je vois une équipe française qui sait compétir, qui sait jouer les gros matchs, qui a attendu sur un match.
On est pressé de l'avoir en Coupe d'Europe.
Voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien les voir en Coupe d'Europe.
Ouais. On est pressé de voir ce que ça peut donner en Coupe d'Europe.
Bon, évidemment, il faudra qu'ils évitent l'écueil habituel de l'équipe qui fait une bonne saison, c'est-à-dire
la vente de tous les meilleurs joueurs, la reconstruction.
J'ai vu que ça a même été assez énigmatique.
Ils vont faire des grosses ventes, on verra à la fin de la saison.
Il n'est pas à exclure que Franquès soit également convoité, notamment par son ancien directeur sportif.
À Nice.
Mais le club de toute manière est pas dimensionné à l'heure actuelle pour jouer la Ligue des Champions tous les ans. De toute façon, tu peux pas te fonder ta saison uniquement sur la participation en Ligue des Champions quand tu es Lens. Donc forcément, il y aura des grosses ventes. Maintenant, est-ce que tu peux ménager une progression, exister en te fixant des objectifs, pourquoi pas en Europa League.
Jouer deux matchs par semaine avec tout ce que la Ligue des Champions demande comme.
Voilà, et surtout être là dans les grands rendez-vous, être capable de répondre à l'attente et de maintenir cette idée de la performance joyeuse le plus loin possible et être capable de sans arrêt progresser. Est-ce que ce club peut encore progresser? J'ai hâte de voir ça.
Voilà pour Lens. Un mot maintenant de la course à l'Europe, parce que il y a toujours 6 points à prendre. Monaco est quatrième avec 65 points. Lille est à 2 points. Rennes à 3. Bon, les Lyonnais à 6 points là peuvent encore, pourquoi pas, atteindre la 5e place. Enfin, ça semble un peu compliqué.
Si tout le monde veut s'écrouler devant.
Oui,
enfin, en même temps, au train où avance Monaco.
C'est ça, c'est assez étrange. J'ai l'impression qu'en fait, personne n'arrive à faire de différence.
Ils sont dans un
tu vois la question des grands rendez-vous. Il est là. Tu les vois, les équipes qui sont capables sur une compétition comme une Coupe d'Europe, compétition sur un barrage, sur les champs. Tu vois, par exemple, l'OM de Tudor en barrage, j'ai envie de voir ça. Je me dis, ils sont capables. Au mois d'août, s'il y a bien une équipe qui au mois d'août est capable de faire ça, c'est peut-être une équipe de Tudor. Je sais que moi j'ai des réserves sur Tudor, mais peut-être ça me rassure beaucoup plus que l'OM joue le tour préliminaire que Monaco.
Ah oui.
Parce qu'en plein été, sur la Côte d'Azur, bon, c'est pas une ambiance Coupe d'Europe, si je puis dire.
Oui, puis on l'a vu l'an dernier, ce que ça a donné.
Voilà. Donc je pense que je serais plus rassuré pour le coefficient UEFA si c'est l'OM qui joue le tour préliminaire. Ouais.
Et après, pour le reste derrière, oui, Monaco, au train où ils avancent, on peut même pas exclure qu'ils se fassent manger par Lille, qui m'a l'air d'être dans une dynamique pas mal, même si, attention, hein, sur la première période du match, on n'a pas parlé du match à proprement dit, sur la deuxième période. Enfin, c'est l'OM qui remet Lille complètement dedans. Hein.
Mais est-ce que Lille, c'est pas le Lens de l'année dernière?
Mais Lille peut. Moi, j'exclus pas que Lille termine finalement quatrième. Là, je trouve que c'est un peu redistribué entre Rennes, Lille et Monaco. Il peut y avoir une petite
Rennes,
surprise.
Rennes Monaco, hein. Ce week-end. Hein.
Mais Rennes Monaco en ce moment. Tu vois, t'as plus envie de miser sur Rennes, hein, les Monégasques qui sont vraiment dans une fin de saison
avec une différence de but qui n'est pas à l'avantage de Monaco si on la compare à celle de Lille ou de
Rennes. Et un match nul et Lille pourrait en profiter du coup.
Exactement, par exemple.
Lille qui va?
Ah, je ne sais plus, je connais pas tout le cadre par cœur.
Ah, bah, moi je pensais que si.
Ah, tu pensais que j'allais t'apporter la réponse comme ça automatiquement?
Je vais te la donner moi la réponse, je n'ai aucun problème.
Tu vas voir.
De quoi?
Lille va à Nantes.
Lille reçoit Nantes. Lille reçoit Nantes. Lille reçoit Nantes. Donc ils vont fesser les Nantais.
Oui. On a du mal à envisager
après 3.
Et après, ils vont à 3. Donc les 6 points pour Lille. Lille va prendre 6 points là.
Si Lille est sérieux, Lille prend 6 points.
Lille va prendre 6 points. Donc là.
Rennes reçoit Monaco, il va à Brest. Et les Monégasques qui reçoivent Toulouse en dernier match.
Toulouse, ils sont en roue libre là.
Ouais, Toulouse, c'est en roue libre. Donc Monaco
est. Ça veut dire même que le Rennes Monaco.
Monaco, au mieux, ils prennent 4 points. Ouais, ouais.
On a Julien qui est là, qui est supporter de... Bah.
On l'a perdu.
Alors attends, il est là. Une confusion. Je récupère Julien dans quelques instants, qui était supporter monégasque il y a deux secondes, mais qui est devenu supporter auxerrois entre temps. Mais c'est peut-être l'autre Julien.
Ça va pas être la même.
Bref, il y a eu une petite erreur. C'est Max du Standard, il est trop rapide. Voilà, il dégaine les auditeurs aussi vite que la lumière. Il est trop fort, Max. Est-ce qu'il va revenir notre auditeur monégasque dans quelques instants? Je pense. D'ailleurs, il s'appelle pas du tout Julien, mais Antoine. Salut Antoine.
Salut Gilbert.
Bon, tu partages un peu le pessimisme ambiant là sur la fin de saison de ton club?
Ouais, là c'est catastrophique. Là, on est sur une dynamique absolument terrible. On est en train de perdre tous nos matchs. Il y a deux semaines, on pouvait encore espérer jouer à Ligue des Champions. Et il y a une ambiance de groupe qui est terrible, puisque en fait tout le monde veut partir. Ça commence déjà à parler de l'année prochaine, mais est-ce qu'on sera en Coupe d'Europe? Parce que là, on peut se faire doubler par Lyon et on peut se faire doubler par Rennes aussi.
C'est vrai qu'on a le sentiment, il y a un truc en interne, la Monaco qui joue, c'est la vacance de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, Paul Michel va partir. On connaît déjà le nom de son successeur, mais il n'est pas encore vraiment là.
Ils prennent 3 points contre Toulouse quand même le dernier match. 3 points, ça devrait leur suffire.
Non, mais
c'est ce qu'on appelle la vérité de la compétition. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où tu vois, quand tu as des organigrammes qui basculent, des organigrammes fragiles, on le voit à Nice, on le voit à Monaco. On l'a vu à Lyon, ça sur le terrain, ça se retranscrit. Il y a une connexion directe entre l'organigramme, tout simplement parce qu'un joueur, s'il ne sait pas s'il sera là l'année prochaine, s'il ne sait pas qu'il va être directeur sportif,
il y a déjà d'autres joueurs qui ont négocié pour l'année prochaine. Ils sont déjà ailleurs. Franchement, il y a une démobilisation. Moi, à Monaco, je les vois là, peut-être les 3 points du dernier match contre Toulouse à domicile.
Bon, non.
Ça peut suffire éventuellement.
Bon, je suis pas sûr.
Non, je crois pas.
Si tu perds Rennes, c'est derrière Rennes.
Le facteur terrain,
tu dépends de Rennes.
Ouais. Non, ça peut finir en cata à Monaco.
Exactement.
Peut-être que là, on pourra parler d'échec cette fois. Vincent sera vrai.
Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut finir 7e surtout.
Ouais, on pourrait finir 7e. Ouais.
Et alors, vraisemblablement, si Clément reste en poste, c'est que Michel, il se dit attends, moi, je m'en vais à la fin de la saison, je peux me rajouter là, deux journées de la fin, une galère en plus. Donc, en gros, on laisse couler. Quoi. C'est un peu ça l'histoire, Antoine.
On se dit aussi que ça. Clément a valorisé du jeune cette année.
Je vois pas comment.
Qu'il a fait jouer 2-3 joueurs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent.
Ouais, il a surtout fait jouer Diatta, surtout, à tous les matchs.
Ah, t'aimes pas Diatta, toi?
Bah, si encore il
franchement,
était bon.
Franchement, il est pas extraordinaire, Diatta, pardon. Mmh. C'est un bon match tous les combien?
Oh, tous les 10.
Bon, Antoine, pessimiste, supporter de Monaco, on verra ce que ça donne. Dans quelques instants, on est dans une grosse minute, on parle du maintien. On aura cette fois Julien pour de bon, qui est supporter d'Auxerre. Auxerre, on a commencé à en parler hier. Je pense qu'on peut être plutôt optimiste pour eux. Vous donnerez votre avis dans quelques instants, puisque vous n'étiez pas là hier soir. À tout de suite. Voilà.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h47, ils sont là, Daniel Riolo et Thibault Leplat. Pour conclure sur notre lundi d'analyse de la Ligue 1, il faut qu'on parle forcément du maintien. Julien est bel et bien là cette fois, supporter d'Auxerre. Salut Julien.
Salut l'équipe.
Quel est ton degré de confiance là?
Je suis allé à 80-85%.
Oh. Mais ils sont bien les Auxerrois. Ils sont bien, la dynamique est bonne.
Ouais, j'étais au stade contre Paris. J'ai eu peur pendant 8 minutes. Et après, ça allait beaucoup mieux. J'ai vu ce qu'ils ont montré, la barre, l'envie. Enfin, ils ont vraiment, ils se sont vraiment arrachés pour essayer de trouver au moins le nul. Bon, ça a pas souri malheureusement. On s'y attendait un peu, mais je suis plus que confiant.
Est-ce que t'es confiant match. Parce que Nantes est vraiment très nul.
Il faut pas perdre les deux matchs.
Voilà,
quoi.
Ou parce que toi, tu sens que tu vas prendre des points.
J'allais y venir. En fait, là, c'est maintenant tout va jouer, je pense, au prochain match. C'est-à-dire que Lille va jouer la quatrième place naturellement. Hein. C'est Nantes, Lille-Nantes.
Non mais Nantes perd. En fait, le truc c'est de se dire que Nantes va prendre 3 points contre Angers. Est-ce que ces 3 points-là, tu les couvres toi de ton côté sans? Non, c'est bon. Ouais. Je parle à un Auxerrois. Donc je lui dis s'il doit nourrir une inquiétude, c'est au pire imaginer que Nantes prend 3 points. Et toi, pendant ce laps de temps-là, est-ce que tu prends un point ou est-ce que tu peux envisager de perdre les deux? Parce que tu peux perdre contre Lens à domicile et tu peux perdre à Toulouse.
Exactement. En fait, moi, je pars du principe d'autrement, en fait. Parce que là, quand je vois Lens, ils vont peut-être finir tranquille à Auxerre. S'ils assurent la deuxième place, voilà, il y a une chance, allez, une chance sur deux où ils viennent tranquilles.
Ouais, ils sont en touriste parce que c'est bouclé, quoi.
Voilà, exactement. Ils ouais. mettent une équipe bis, par exemple. Hein. Donc on voilà, après on a toutes nos chances, mais tout va, moi pour moi c'est tout va jouer si Lille joue, si Lille massacre Nantes, avec tout le respect que j'ai pour Nantes, hein, et que nous on fait un bon résultat, c'est plié. On aura 4 points, c'est plié.
Ah bah oui, oui, bien sûr.
Voilà, voilà. Après j'ai vu Angers jouer contre Rennes, attention Angers quand même. Hein. C'est pas, c'est, enfin voilà, ils sont
derniers. Angers, voilà. C'est leur dernier moment, leur dernière occasion pour les certains joueurs de se montrer.
Exactement.
Et parfois, rival de Nantes en plus,
voilà,
à Angers.
Et que, voilà, et que les derniers, les
il y
derniers
en a
matchs.
Un an, Angevin Abdelli qui a dit, si on peut les emmener en Ligue 2 avec nous, voilà, on le fera.
Et voilà.
Voilà, donc il faut pas négliger l'énergie du mourant, si je puis dire. Exactement. Il peut y avoir un dernier sursaut.
Non, mais vous êtes bien mieux, vous êtes bien mieux placé que Nantes aujourd'hui, ça c'est sûr, mais il va falloir aller prendre un ou deux points, ça devrait suffire.
Je pense aussi. Après, une petite histoire de la banderole. Bon, moi j'étais au stade, hein, contre Paris. Bon, ça, il y a rien qui m'a choqué. On l'a vu, elle était énorme. Enfin voilà, enfin politiquement parlant, enfin je sais pas, c'est un constat en fait, hein, c'est pas, enfin y a rien de choquant, enfin pour moi ça m'a pas choqué. Y a personne qui a applaudi, enfin on a tous lu la banderole, voilà, ils ont passé leur message parce que c'était Paris en face et c'était surtout le Qatar. D'ailleurs il y a eu des chants anti-Qatar, ça c'est vrai, mais c'était pas contre
dans
Paris.
Dans beaucoup de stades en France, oui.
Ouais, exactement. Donc c'était contre le Qatar et c'était pas contre Paris le club en fait. Donc bon, voilà, un petit aparté comme ça, mais voilà. Mais
même
voilà,
si aujourd'hui donc, Paris, le club et le Qatar, c'est la même chose, mais bon.
Et oui, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de chants anti-parisiens. C'était vraiment le Qatar bing bing, si vous préférez, ouais. Voilà.
Merci Julien. Bon bah écoute, on verra, hein. On te souhaite que ça marche pour Auxerre. Alors si ça marche pour Auxerre, ça veut dire que ça ne marchera pas pour Nantes. Et là, il va quand même falloir qu'on se penche sur le cas de Nantes, parce que on a là une ville, enfin un club historique de notre championnat, qui était en finale de coupe il y a pas longtemps, qui a un public de dingue, enfin qui a un beau stade, enfin qui est à peu près, qui a des joueurs individuellement, on en a parlé plein de fois ces dernières semaines. Et là, c'est loin d'être.
C'est ce qui s'appelle une saison totalement catastrophique. Catastrophique, les Nantais. Moi, j'étais sûr qu'ils allaient se maintenir tranquillement et que le moment venu, ils gagneraient les deux matchs qui leur manquaient. En chaussons, j'avais dit. Tout comme Flo Gautreau, on était en chaussons au salon, qui gagneraient les deux matchs qui leur manquaient.
Chaussons.
Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Le changement d'entraîneur n'a même rien apporté. C'était le dernier truc, le dernier déclic qui a été tenté. Il ne se passe rien. Montpellier a été leur coller une énorme raclée. Il n'y a pas eu un réveil chez les joueurs. Il n'y a pas eu un soupçon d'orgueil. Ils se sont mis à mort tout seuls.
Surtout que dans la mesure, le départ de Camboiré, c'est plus évidemment un constat d'échec, où Camboiré était le seul qui avait réussi à faire un peu l'unanimité à Nantes. Il était le seul à avoir un peu sauvé le club du marasme. Il faut se souvenir de la situation.
On peut reprocher plein de choses de Kita, mais comment tu veux leur reprocher d'avoir essayé en fait quelque chose?
Ah non, ça qu'ils essayent.
À trois journées de la fin.
Si, tu peux, tu peux tenter un truc à un moment. Tu sens que la spirale
épargner le CV de Camboiré.
Non, mais tu sens que la spirale est horrible. Je veux bien, dans le désespoir, tu tentes le truc. Je suis pas contre, mais c'est avant qu'à un moment il n'ait pas trouvé le moyen, quand il semblait dans le confort. On passe d'une équipe qui a gagné la Coupe de France, qui a fait l'Europa League en offrant des belles soirées. Un an après, ils vont se retrouver en Ligue 2.
Mmh. Et même l'Europa League, c'est moins que ça.
C'est quand même fou. C'est quand même fou ce qui s'est passé dans ce club en un an.
Et alors, Kita, le père, hein, bon, tu me diras le fils, on l'entend pas beaucoup. Mais...
Bah, le père va dire qu'il a trop délégué au fils, donc ils vont s'embrouiller.
Non mais vous abonnez absurde, le gars.
Parce qu'il a délégué au fils, comme en plus il s'est brouillé, l'autre va lui dire, bah tu vois, quand j'avais Moji Bayad, ça se passait mieux, mais toi t'as plus voulu bosser avec lui, tu t'es embrouillé avec lui. Donc il va y avoir règlement de compte. Ça va être règlement de compte en famille.
Ah, tu penses que ça va tourner comme ça?
Ça leur donnera peut-être envie de vendre.
Mais il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur.
Ah, attention, parce que s'ils descendent, prix, hein. Ça descend le prix.
Il n'y a pas d'acheteur.
Là, c'est peut-être Bayad qui, Kita qui voudra plus vendre à moindre coût. Ça peut déjà.
Être... Et je crois pas qu'il y ait d'acheteurs, moi. Mais bon.
Voilà. Toujours des acheteurs, ça dépend des prix.
Ouais, c'est quand même, l'an dernier, on a eu Bordeaux qui est descendu. Cette année.
Là, tu pourrais te retrouver. Non, Bordeaux va probablement remonter, mais si tu as Nantes et Saint-Etienne en Ligue 2.
Bah, ça va être ça. Hein.
Et si Bordeaux montait pas, Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne,
oui, c'est quand même. T'as quand même des clubs historiques comme ça.
Aussi, ça.
Ça veut dire qu'en Ligue 1, l'année prochaine, on est à 18, je le rappelle. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Même des bastions historiques sont pas à l'abri.
Ça va pas être simple de remonter, en plus. Hein.
Ouais. Mais c'est ce qui permet aussi d'améliorer la compétitivité de la Ligue 1. C'est d'avoir plus de méritocratie, plus de clubs peut-être moins connus, mais qui sont capables de tenir la dragée haute
comme Clermont.
Comme Clermont, mais Clermont fait progresser
la Ligue
1 aussi.
Clermont qui est pas une place forte du football, mais Clermont, qui est pas un club historique de notre football.
Clermont est un club intéressant.
Mais qui a offert un football, peux rien leur dire, vous avez parfaitement bien joué, bravo à vous.
C'est un club intéressant pour les autres. C'était un modèle à suivre aussi. C'est beaucoup plus que le FC Nantes, le FC Kita. C'est beaucoup plus un modèle Clermont de développement, de jeu, de continuité de l'entraîneur.
Président intelligent.
Voilà. Donc c'est. Alors, après, ils vont pas. Je leur souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Peut-être les vents mauvais viendront peut-être un jour. Les vents contraires. Mais je pense qu'il y a des clubs qui au-delà de la question des clubs historiques, qui drainent peut-être un peu plus de monde pour l'amélioration de la compétitivité de la Ligue 1. Moi, je suis pour une méritocratie pure, où vraiment tu as, même dans la répartition des droits télé, on en reparlera peut-être un autre jour, il faut que ce soit, les droits télé soient répartis au mérite sportif réel. Voilà, et que ces clubs-là méritent de toucher l'argent auquel ils ont droit grâce à leur performance sportive.
Newcastle jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est désormais officiel après le 0-0 du soir face à
Leicester. Acteur sur le marché des transferts, probablement.
Ah, que va-t-il se passer ?
Newcastle en Ligue des Champions, chapeau 4.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas mal, hein, ce qu'ils ont fait Newcastle. Hein.
Chapeau 4.
Tout le temps. Hein.
La Lazio en Ligue des Champions, ça va pas être chapeau 1 ni chapeau 2 non plus. Hein. Ça peut être 3 ou 4 aussi.
Ils ont pas fait n'importe quoi.
Il peut y avoir des équipes surprenantes dans le chapeau 4.
Tiens, Nottingham Forest est officiellement maintenu grâce à ce 0-0 là, de Leicester, club de Keylor Navas. Vous savez qu'il y a un Euro Espoir qui arrive en juin. Le capitaine de l'équipe de France, Benoît Badiachil, est blessé. Il est d'ores et déjà forfait pour cet Euro Espoir. Voilà, on l'a appris aujourd'hui de la part de Chelsea. Et puis, il me reste quelques secondes pour vous dire que demain, comme désormais de coutume, vous retrouvez le nouvel édito de Thibaut sur afterfoot.media, consacré à Dante.
Ouais, à l'OGC Nice et au match de dimanche notamment.
Tu nous parleras un peu de Nice demain soir.
Ouais. L'avantage de ces éditos sur afterfoot.media, c'est que si vous êtes abonné de la revue, vous pouvez débattre au pied de l'édito avec tous les abonnés. Ça marche plutôt bien. Donc n'hésitez pas à aller sur afterfoot.media où il y a en ce moment une offre de ouf, offre fête des pères. Alors, je sais, la fête des pères, c'est pas tout de suite. Mais enfin là, on est sur du moins 40% sur l'abonnement à la revue. Hein. Donc n'hésitez pas à aller sur afterfoot.media pour tout savoir. Et on termine avec Survivor.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est pas encore fini ce soir.
Ça y est, c'est fini.
Ah, quand même, il détend.
Wow. Celui qui a pris tous les risques.
Un mec sans panache.
Puisque, justement, non. On était beaucoup à jouer Reims ce week-end, face à Angers, dont moi, dont Thibaut, on a perdu.
Bah, il y en a un seul.
Il y en a un seul qui, depuis de chez lui, là, s'est dit moi, je joue Rennes, contre qui gagne à Ajaccio.
Logo trop.
C'est Nico Villas.
Nico Villas.
Nico Villas, il a gagné, mec. Il a gagné le dernier survivant de la saison. Bravo.
Bravo.
Bravo, Nico. Il restait 158 gagnants parmi les parieurs et chacun remporte 63 euros de free bet. Donc ça rapporte un peu moins que le précédent où Coach Courbis et Jean-Louis Tour avaient pris 3333 euros quand même de free bet.
Ah bon ?
Ah oui ?
Merde.
Ouais. Ah oui, ça va aller
coup.
Ça va aller coup que tu sois sérieux dans le Survivor, mais bon.
Moi, je vais gagner le dernier là.
Il y en a plus, il reste deux journées. Le prochain, c'est au mois d'août.
Vous m'avez bien arnaqué cette année avec ce jeu.
T'as été bien nul sur
ça. Non, Jérôme, il faisait exprès de me virer du jeu pour pas que je gagne.
Allez, c'est fini pour ce soir. Demain, on sera là à 20h avec Génération After et à 22h, l'After, bien sûr. Bonne nuit à tous.
RMC, l'After Foot.